présence ce soir dans cette salle de la mairie. Merci surtout aux amis du monde diplomatique pour leur invitation à parler ce soir d'une proposition qui apparaît véritablement dans le débat public tel qu'il est aujourd'hui comme une proposition iconoclaste, comme une sorte de proposition un peu utopique, idéaliste, naïve et réaliste. Une proposition qui est en tout cas systématiquement disqualifiée dans le débat. Une idée à laquelle est opposée l'immense majorité de la population et la quasi-totalité des représentants politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. L'idée d'ouvrir les frontières, l'idée de permettre la libre circulation, c'est pourtant une idée qui était considérée très sérieusement dans les années 20, notamment, où il y a eu plusieurs sommets de chefs d'État qui, au moment de discuter de l'harmonisation du système des passeports, avaient émis l'idée qu'il serait finalement plus simple et plus rationnel pour tout le monde d'ouvrir les frontières. Finalement, ce n'est pas l'option qui était retenue et on a décidé plutôt d'harmoniser les passeports entre les différents pays dans les années 20. C'est pour ça que tous les passeports ont désormais à peu près la même taille, à défaut d'avoir la même couleur. Et depuis, même si la proposition a été plusieurs fois soulevée, évoquée notamment à l'aune de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés depuis 2014, ça reste une proposition systématiquement disqualifiée dans le débat public, au point que c'est même un argument massif que vous pouvez utiliser si vous voulez disqualifier vos adversaires politiques. Voilà, je vous mets quelques réactions politiques en Belgique, les réactions politiques en France sont sensiblement les mêmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique migratoire d'un gouvernement, c'est qu'alors vous voulez ouvrir grand les frontières et laisser libre cours au chaos migratoire qui ne manquerait pas de s'installer. Et donc on est aujourd'hui face à une proposition qui ne fait même plus partie du débat public. Face à une proposition qui est systématiquement disqualifiée et qui, même si elle peut être partagée sur le plan éthique ou philosophique par certains, n'est jamais mise en débat. Je ne compte plus le nombre de députés et de ministres auxquels j'ai parlé et qui m'ont tous dit « Vous savez, à titre personnel, je suis d'accord avec vous. À titre personnel, je suis favorable à l'ouverture des frontières, mais vous savez, comme l'opinion publique est crispée sur ces sujets, vous connaissez le contexte actuel, vous savez très bien qu'il est impossible de mettre cette option sur la table, qu'il est impossible d'en parler publiquement. » Et donc ce que je défends, c'est que l'on soit favorable ou défavorable à cette option, c'est en tout cas une option qui mérite d'être mise sur la table, d'être considérée parmi les choix possibles en matière de politique migratoire. Il faut pouvoir dire que les politiques migratoires qui sont menées actuellement ne sont pas le seul choix possible, ne sont pas la seule option possible et résultent d'un choix politique qui me semble profondément xénophobe. Or, ce narratif de crise, cette rhétorique et cet imaginaire de crise qui s'est imposé depuis maintenant 3 ou 4 ans et qui a considérablement tendu et crispé les opinions publiques sur la question des migrations, fait avant tout l'affaire des populistes, fait avant tout l'affaire des nationalistes et des xénophobes qui utilisent cette logique de crise pour imposer leur politique, pour imposer leur agenda, comme si c'était le seul possible. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un véritable impératif démocratique à ce que cette question des migrations ne soit plus capturée, kidnappée par l'extrême droite, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'il puisse être envisageable en démocratie d'avoir un débat rationnel, posé et pragmatique sur une question de société fondamentale, c'est-à-dire la question des migrations. Et je pense que parmi les options que l'on doit pouvoir considérer, il y a celle de l'ouverture pure et simple des frontières. Et donc ce que je voudrais vous présenter ce soir, ce sont 10 arguments qui plaident en faveur de l'ouverture des frontières, car je crois effectivement que le choix d'ouvrir les frontières serait aujourd'hui le choix le plus rationnel et le plus pragmatique que l'on puisse faire face à la réalité des migrations contemporaines. Voici donc 10 raisons qui, je crois, doivent nous conduire, sinon à ouvrir les frontières, du moins à envisager cette possibilité comme une option possible dans le débat sur la politique migratoire. La première raison est une raison humanitaire qui devrait se suffire à elle-même. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants périssent en Méditerranée. Au cours de cet été, qui s'achèvera dans une semaine, le taux de mortalité en Méditerranée s'élevait à plus de 5%. Une personne sur 18 qui tentait la traversée n'arrivait jamais à destination. Bien sûr, le nombre de traversées a beaucoup diminué entre 2017 et 2018 et entre 2016 et 2017. Entre 2017 et 2018, le nombre de traversées a été quasiment divisé par 5, mais le taux de mortalité, lui, n'a cessé d'augmenter. Ce qui veut dire que la traversée est de plus en plus dangereuse, de plus en plus meurtrière. Ce n'est pas une situation neuve. On estime que, depuis le début des années 90, c'est environ 40 000 personnes qui ont péri en Méditerranée. Le total s'arrêtait à 31 605 avant le début de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. On en a recensé encore 34 361 selon d'autres sources. Et voici les derniers chiffres. Au début de l'été 2018, nous étions à quasiment 2500 morts déjà parmi les migrants et les réfugiés. Pardon, c'était à la fin du mois d'août. Ce qui est effrayant à la vue de ces chiffres, c'est que la Méditerranée est devenue la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants et pour les réfugiés, et que cette situation dure depuis quasiment 30 ans. C'est-à-dire qu'elle dure depuis le moment où nous avons décidé, au moment où nous ouvrions les frontières intérieures de l'Union européenne, de réserver cet espace de liberté et de prospérité à ceux qui y étaient déjà. Et que la contrepartie de l'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne, cela a été la fermeture hermétique de ses frontières extérieures. S'il y a autant de gens qui meurent chaque jour en Méditerranée, s'il y a autant de gens qui doivent faire appel au service des passeurs et remettre leur vie entre les mains de réseaux souvent criminels sur de très frêles embarcations, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'ils ont absolument besoin de franchir cette frontière, parce qu'ils sont menacés dans leur pays ou parce que les espoirs de leur famille reposent sur leurs épaules, et que comme cette frontière est fermée, ils n'ont pas d'autre choix que de remettre leur vie entre les mains des passeurs. Ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils sont incapables de prendre l'avion. Il serait tellement plus facile, il serait tellement moins cher de prendre l'avion pour traverser la Méditerranée, ce qui garantirait d'arriver en vie et d'arriver dans des conditions dignes. Mais le problème, bien entendu, c'est que sans visa, il est impossible d'embarquer dans un avion. Avec un passeport français, vous avez accès à plus de 150 pays dans le monde sans visa. Ça veut dire que dans la plupart des pays que vous visiterez dans le cadre de votre travail ou pour du tourisme, vous n'aurez jamais besoin de demander un visa. Pour ceux qui sont nés au sud de la Méditerranée, il faudra un visa pour quasiment tous les autres pays, à l'exception des pays voisins. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas possible pour eux d'embarquer dans un avion. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que plus nous allons fermer les frontières, plus nous allons renforcer le business des passeurs. Plus la frontière sera hermétiquement fermée, plus elle sera difficile à franchir, plus ceux qui ont un besoin impérieux de la franchir auront besoin de recourir au service des passeurs. Et donc, plus nous allons prétendre lutter contre les passeurs en fermant davantage les frontières, en réalité, plus nous allons alimenter leur business qui aujourd'hui prospère de manière spectaculaire. Et donc la première raison, je crois, qui devrait se suffire elle-même, je ne devrais même pas avoir besoin d'énoncer les 9 suivantes, la première raison qui peut nous conduire à ouvrir les frontières, c'est simplement une raison humanitaire. C'est pour épargner les vies de tous ceux qui se noient alors qu'ils cherchent l'Europe. S'il était possible de venir en avion, si les frontières étaient ouvertes, alors les gens ne se noieraient plus. Alors les gens arriveraient en vie dans des conditions. Et si nous avions encore la possibilité d'un débat un peu serein et digne sur ces questions, la conférence s'arrêterait ici et on ouvrirait les frontières. Mais vous connaissez aussi bien que moi l'état actuel assez pathétique du débat public sur l'immigration. Et donc, il faut ajouter d'autres arguments. La deuxième raison qui doit nous conduire à ouvrir les frontières, elle correspond à une priorité politique de tous les gouvernements, c'est celle de lutter contre les passeurs. Et la fermeture des frontières a engendré, comme je le disais, une explosion du business des passeurs. Ce qui était encore une activité de service aux migrants fournie par quelques pêcheurs ou quelques montagnards il y a encore quelques années, est devenu aujourd'hui une véritable industrie organisée en réseau souvent criminel. Le trafic de migrants et de réfugiés est aujourd'hui devenu le troisième trafic illégal le plus rentable du monde, derrière le trafic d'armes et le trafic de drogue. Avec une caractéristique essentielle qui rend ce trafic très attirant pour les criminels de tous bords, c'est que contrairement au trafic d'armes ou au trafic de drogue, avec les migrants, si vous perdez la marchandise, personne ne vous la réclame jamais. Et c'est cela qui fait que les réseaux se sont organisés avec de très nombreux intermédiaires, parce que, évidemment, ils avaient compris que plus les frontières seraient fermées, et tant qu'il y aurait des gens qui auraient impérativement besoin de franchir cette frontière, eh bien, à ce moment-là, il y aurait un business qui ne demanderait qu'à se développer. Et on est aujourd'hui face à des situations absolument délirantes. Tous les gens sont prêts à prendre tous les risques pour franchir les frontières. Vous avez à l'image la photo d'un type qui a eu beaucoup de chance, qui a réussi à arriver en Espagne caché dans le moteur d'une voiture et que les douaniers espagnols ont découvert un peu éberlué il y a quelques mois. Celui-là a eu énormément de chance, il est arrivé en vie en Espagne. Il y en a beaucoup d'autres, vous le savez, qui n'auront pas cette chance, dont le bateau à chavirer simplement parce que les passeurs ne se tracassent guère de savoir si les migrants arrivent ou non à destination. J'ai été très marqué il y a quelques années par le témoignage d'un réfugié syrien qui avait traversé la Méditerranée de la Turquie jusqu'à Lesbos en Grèce et qui expliquait qu'il avait payé 2000 euros la traversée à un passeur, et que, à quelques kilomètres à peine des côtes turques, l'embarcation a commencé à prendre l'eau. Et que, ils ont d'abord dû jeter à l'eau toutes leurs affaires personnelles, toutes leurs valises. C'est-à-dire les quelques effets personnels qu'ils avaient réussi à sauver des bombardements, y compris leur pièce d'identité, leur diplôme, tout ce qui leur aurait permis de recommencer une vie un tant soit peu normale en Europe, tout ça a été balancé à l'eau, parce que l'embarcation prenait l'eau. Et puis, comme ça n'a pas suffi, il a fallu que les hommes sautent à l'eau. Et puis ils ont dérivé ainsi pendant quelques heures, jusqu'à être miraculeusement récupérés par les gardes-côtes turcs, qui les ont ramenés en Turquie. Et il me dit, 10 jours après, alors que j'ai failli perdre la vie dans cette traversée, 10 jours après, j'ai payé à nouveau le même passeur pour la même traversée, simplement parce que je n'avais pas d'autre choix, qu'il me fallait franchir cette frontière à tout prix, et que le passeur était le seul qui proposait la traversée à l'endroit où j'étais. Et donc, bien entendu, très souvent, ça tourne mal. Il y a les bateaux chavirés en Méditerranée, il y a aussi ceux qui meurent sur le continent. On se souviendra de ces 71 migrants morts étouffés les uns après les autres à l'arrière d'un camion frigorifique à la frontière entre l'Autriche et la Slovaquie. Ils ont été jugés au début de l'été. Si les frontières étaient ouvertes, le business des passeurs n'aurait plus de raison d'être. C'est la fermeture des frontières qui engendre ce business sordide. Et donc, si nous ouvrions les frontières, nous pourrions casser le business model des passeurs, et cela répondrait à une priorité politique de la totalité des gouvernements européens. La troisième raison est une raison d'efficacité. La fermeture des frontières ne permet pas du tout de répondre aux objectifs qui lui sont fixés. L'objectif officiel de la fermeture des frontières, c'est bien entendu d'empêcher les gens de venir. Le problème, c'est que c'est un leurre absolu d'imaginer que les migrations internationales sont contrôlées, sont commandées par le niveau d'ouverture ou de fermeture des frontières. Toutes les études que l'on a pu mener, qu'il s'agisse d'études historiques, sociologiques ou prospectives, montrent que le degré d'ouverture d'une frontière ne joue absolument aucun rôle dans la décision des gens de migrer ou de rester. Et que ce serait méconnaître absolument les raisons qui poussent les gens à quitter leur pays que d'imaginer qu'ils le font parce qu'une frontière est ouverte, ou à l'inverse, d'imaginer qu'ils décideraient d'abandonner leur projet de migration parce qu'une frontière est fermée. C'est sans doute le plus gros fantasme politique qui soit à l'heure actuelle, que d'imaginer que les frontières soient un instrument efficace de contrôle et de régulation des migrations. Et pourtant, ça semble tomber sous le sens commun. On voit les migrations comme des flux et on s'imagine que, selon qu'une frontière est ouverte ou fermée, il y a plus ou moins de gens qui vont venir. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui partent parce qu'ils ont absolument besoin de partir, parce que leur vie est en jeu, parce qu'ils ont besoin de partir pour nourrir leur famille. Et ce n'est évidemment pas une frontière fermée qui les arrêtera. Et de la même manière, la décision de migrer est un choix tellement important, tellement difficile, que ce n'est pas non plus la simple ouverture d'une frontière qui va les pousser à partir. On le sait via toute une série d'enquêtes sociologiques sur les déterminants, les motivations de la migration qui montrent que la frontière ne joue aucun rôle dans la décision de migrer. On le sait aussi, historiquement, nous avons une quantité presque interminable d'exemples qui montrent que ce ne sont pas les frontières qui régulent les migrations. Nous avons des exemples d'ouverture de frontières qui n'ont pas conduit à des migrations dans tous les sens de façon chaotique. L'exemple le plus clair est celui de l'ouverture des frontières européennes au sein de l'espace Schengen. Quand on va créer l'espace Schengen au début des années 90, on ne va pas avoir de flux massifs du sud vers le nord de l'Europe, malgré des différences de salaire et de développement très importantes. Et quand les pays d'Europe centrale et orientale vont rejoindre à leur tour l'espace Schengen, il ne va pas y avoir d'exode massif de Bucarest vers Stockholm, alors que la Roumanie est un pays dont le niveau de développement est 6 points inférieur à celui de la Suède, c'est-à-dire le même différentiel que celui qui existe entre les pays du sud de l'Europe et plusieurs pays africains. Un exemple extra-européen, la frontière entre l'Inde et le Népal est complètement ouverte depuis le traité de paix qui lie les deux pays en 1950. L'Inde est un pays qui connaît un développement très rapide, particulièrement dans sa partie septentrionale. Le Népal reste un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, quasiment 70 ans après l'ouverture complète de cette frontière, il y a davantage d'Indiens qui habitent au Népal que de Népalais qui habitent en Inde. Nous avons également des exemples de fermeture des frontières qui n'ont pas du tout eu l'effet escompté. La construction du mur entre le Mexique et les États-Unis, que Donald Trump veut désormais rehausser et renforcer, n'a absolument pas ralenti les flux migratoires du Mexique vers les États-Unis. Ces flux sont déterminés par l'état du marché de l'emploi aux États-Unis, par la situation économique des deux pays. Et le paradoxe, c'est qu'il y a aujourd'hui davantage de gens qui quittent les États-Unis pour le Mexique que de gens qui quittent le Mexique pour les États-Unis. Le flux migratoire Mexique-États-Unis, il va dans le sens des États-Unis vers le Mexique aujourd'hui. Et puis l'exemple le plus frappant, bien entendu, c'est encore celui qui est à nos portes. Ces dernières années, les pays de l'Union européenne ont été confrontés à un afflux de demandeurs d'asile et de migrants comme ils n'en avaient plus connu depuis plusieurs dizaines d'années, alors que jamais les frontières extérieures de l'Union européenne n'avaient été aussi hermétiquement fermées. Elles sont désormais patrouillées par des navires de l'OTAN. À ceci, vous me direz, oui, mais il faut quand même considérer ce qui s'est passé récemment en Allemagne. On a vu qu'en 2015, la chancelière Merkel avait ouvert grand les portes de l'Allemagne et que le résultat, c'était qu'il y a eu un afflux massif de réfugiés en Allemagne. Là encore, les chiffres montrent que ce n'est pas l'ouverture des frontières allemandes qui a fait venir les demandeurs d'asile et les réfugiés en Allemagne, c'est l'inverse, c'est l'afflux de réfugiés vers l'Allemagne qui a poussé la chancelière à ouvrir les portes. On le voit très bien sur ce graphique, on voit que l'ouverture des frontières allemandes ne fait qu'accompagner l'afflux de réfugiés vers l'Allemagne, mais qu'elle ne le déclenche pas. Et de la même manière, la fermeture de la route des Balkans en 2016 avec l'accord passé avec la Turquie n'interrompt pas non plus le flux de réfugiés depuis la route des Balkans. Il ne fait que l'accompagner. Ce flux s'était tari bien avant que l'accord avec la Turquie ne soit négocié. Et donc aujourd'hui, cette fermeture des frontières, en réalité, c'est un message qui est adressé à l'adresse, pardon, cette phrase n'est pas très élégante, C'est un message qui est adressé à ceux qui sont à l'intérieur des frontières, bien plus qu'à ceux qui se trouvent à l'extérieur de la frontière. Aujourd'hui, nous avons utilisé la frontière comme une sorte de totem pour marquer une identité collective, pour marquer une démarcation entre le « nous » qui sommes à l'intérieur et le « eux » qui sont à l'extérieur. Et bien entendu, plus cette frontière sera matérialisée par des obstacles physiques, par des murs, par des barbelés, par des clôtures et des miradors, plus elle aura une sorte de fonction rassurante par rapport à ceux qui se trouvent à l'intérieur de la frontière. En 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, tout le monde se jurait, la main sur le cœur, que plus jamais nous n'érigerions de mur pour séparer les peuples. Que plus jamais nous ne séparerions les gens les uns des autres. Nous avons fait exactement le contraire. On n'a jamais construit autant de murs et de barrières aux frontières que depuis la chute du mur de Berlin. Il y a aujourd'hui une soixantaine de pays dans le monde, c'est-à-dire quasiment un pays sur trois, qui a une ou plusieurs de ses frontières clôturées ou murées. Aujourd'hui, la longueur totale des murs et des barrières aux frontières totalise plus de 40 000 km, c'est-à-dire davantage que la circonférence de la Terre. Et si, je crois, nous construisons autant de murs et de barrières aux frontières, c'est parce qu'aujourd'hui, nos sociétés sont traversées par une sorte de fracture de la mondialisation entre une sorte d'élite mondialisée pour qui les frontières représentent au fond les scories d'un monde passé. Je le vois, par exemple, avec mes étudiants à Sciences Po, qui incarnent sans doute plus que d'autres cette sorte d'élite mondialisée et qui ne passe à rien. Ils se moquent de moi parce que je leur donne cours sur l'immigration en ne possédant qu'un seul malheureux passeport, alors qu'en eux en ont trois ou quatre en poche. Ils se moquent de moi parce que je ne parle que trois langues, alors qu'eux, à 20 ans, en parlent déjà cinq ou six. Ils se moquent de moi parce que je ne possède qu'une seule nationalité, alors qu'eux en possèdent trois ou quatre. Tous envisagent, après leurs études, de poursuivre leurs études et leur carrière hors de France. Pas du tout par rejet ou par dégoût de la France, mais parce qu'ils savent qu'ils iront là où ils auront les meilleures opportunités, notamment les meilleures opportunités professionnelles, et qu'ils savent que, sur leur CV, cela fera très chic d'avoir un diplôme d'université étrangère. Et là où, il y a 5 ans encore, je rédigeais par dizaines des lettres de recommandation pour les grandes universités britanniques ou américaines, pour les Oxford, Princeton et Columbia. Aujourd'hui, je rédige des lettres de recommandation pour les universités de Sao Paulo, pour les universités de Tsinghua à Shanghai, pour les universités d'Hérou à Delhi. Parce qu'ils sentent que ce qui fera la différence sur leur CV demain, ce sera d'avoir un diplôme d'université d'un pays émergent. Tous et toutes ont un petit ami ou une petite amie de nationalité étrangère. Aucun n'envisagerait de sortir avec quelqu'un de sa propre nationalité parce qu'ils se disent et parce qu'ils voient que c'est un apport culturel et donc ça veut dire, si tout se passe bien, qu'il y aura demain de plus en plus de mariages mixtes entre des personnes de nationalités différentes et donc des enfants binationaux ou trinationaux. Il y a 20 ans encore, 80% des mariages en France étaient célébrés entre des personnes qui habitaient dans un rayon de 5 km. C'est-à-dire qu'on épousait volontiers le ou la collègue de travail, la petite amie ou le petit ami de lycée, et que, quelque part, les mariages entre gens qui habitaient des distances plus éloignées étaient l'exception davantage que la règle. C'est un ratio qui est aussi en train de s'inverser. Mais à côté de cette minorité pour qui les frontières représentent en quelque sorte les scories d'un monde passé, il y a la majorité de la population qui voit encore la mondialisation comme une menace par rapport à ses conditions de vie, par rapport à ses revenus, par rapport à son emploi, aujourd'hui de plus en plus par rapport à ses valeurs, par rapport à sa culture, et pour qui les frontières vont remplir un rôle de protection. Et qui vont voir la frontière comme une sorte de rempart par rapport à une menace extérieure. Et je crois que si nous voulons avoir un débat plus serein, qui quelque part désacralise la frontière de son rôle symbolique, il faut aussi pouvoir réconcilier ces deux sociétés, celle pour qui la frontière représente la scorie d'un monde passé, et celle pour qui la frontière représente une protection, un dernier rempart par rapport à une menace extérieure. Sinon, la fermeture des frontières ne servira qu'à exciter les populistes et à les faire prospérer. Une quatrième raison que je peux répugne souvent employer parce qu'elle promeut une vision très utilitariste des migrations, mais dans l'état actuel du débat, il faut bien sortir l'artillerie lourde, c'est le fait que l'ouverture des frontières rapporterait beaucoup d'argent. Parce que cette ouverture des frontières permettrait aux migrants de déployer leur potentiel économique. Aujourd'hui, beaucoup de migrants sont dans des situations de précarité et d'illégalité qui ne leur permettent pas d'accéder aux emplois et aux professions qu'ils pourraient exercer pour lesquelles ils ont été formés. Et il y a également énormément d'emplois qui ne sont simplement pas pour vous. Et je vous raconte ici une anecdote personnelle qui est à un micro niveau, mais qui je pense est assez révélatrice de ce gâchis. Il y a quelques années, j'étais dans le jury d'une thèse de doctorat à Oxford. Et l'étudiante qui présentait sa thèse était vraiment excellente. C'était une étudiante sud-coréenne. Et très peu de temps après, à Sciences Po, nous avons eu la possibilité d'engager un chercheur ou une chercheuse en contrat postdoctoral. C'est-à-dire les postdoctorats, pour ceux de vous qui ne sont pas au fait des carrières académiques, c'est le premier job auquel vous pouvez prétendre après avoir terminé votre doctorat et qui normalement vous mène par la suite à un poste de professeur ou de chercheur permanent. Et donc, cette chercheuse sud-coréenne qui venait de terminer sa thèse à Oxford était la candidate idéale que nous avions choisie pour ce postdoctorat. Et donc, les services administratifs de Sciences Po l'ont convoquée pour un entretien d'embauche à Paris qui devait se conclure par la signature de son contrat. Et donc tout semblait aller pour le mieux, pour que le poste soit pourvu par la meilleure candidate, jusqu'à ce qu'elle nous informe 48 heures avant qu'elle ne pourrait pas venir à Paris pour passer cet entretien, qu'elle ne pourrait pas venir signer son contrat, parce qu'elle n'avait plus de papier. Elle était à Oxford avec un visa étudiant qui expirait le jour où elle défendait sa thèse devant son jury. Et donc depuis cette défense de thèse, elle se trouvait de facto sans papier. Et elle a réalisé que si elle prenait l'Eurostar pour venir à Paris, pour venir signer son contrat, elle risquait bien de ne plus pouvoir le reprendre dans l'autre sens. Et elle lui disait, j'ai un mari et une petite fille à Oxford, je ne peux pas prendre le risque de me retrouver à Calais avec les autres, incapable de rentrer en Angleterre. C'est comme ça que ce poste n'a jamais été pourvu. Parce que c'était un poste très spécialisé qui ne convenait, qui était taillé sur mesure pour cette chercheuse. C'est un tout petit exemple, à un niveau microscopique. Mais si on se dit que cette migrante très qualifiée, qui venait de terminer son doctorat dans une des universités les plus prestigieuses du monde, qui venait de Corée du Sud, se trouvait incapable de venir signer un contrat à Paris, On imagine que démultiplié à l'échelle du monde, il y a une infinité de gens qui ne parviennent pas à réaliser leur potentiel économique. Les économistes ont fait plein d'études sur les conséquences économiques de l'ouverture des frontières. Et toutes concluent à des gains énormes pour l'économie mondiale. Si celle-là qui est une des plus récentes de 2015 et qui montre que l'ouverture des frontières se traduirait par une augmentation du PIB mondial comprise entre 11,5% et 12,5%. Alors qu'aujourd'hui, tous les gouvernements de la planète courent désespérément à coups de mesures d'austérité après quelques micro-points de croissance, l'ouverture des frontières permettrait d'en gagner 12 d'un coup. Alors bien sûr, et je l'admets volontiers, c'est avoir une vision purement utilitariste de la migration. C'est considérer les migrants comme de seuls agents économiques, et ils sont évidemment bien plus que cela. Mais même avec cette vision utilitariste, nous ne parvenons pas à avoir un débarrassement. Le graphique de gauche vous montre les résultats d'un sondage qui a été réalisé par la firme d'intérim Manpower auprès d'entreprises dans plusieurs pays européens. Et ce sondage demandait aux chefs d'entreprise s'ils parvenaient à recruter suffisamment de main-d'œuvre nationale ou s'ils devaient faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Et c'est en Hongrie que les entreprises devaient le plus faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. 56% des entreprises sondées en Hongrie déclaraient que les ressources nationales en main-d'œuvre n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait aller chercher des travailleurs étrangers pour répondre à la demande. Le graphique de droite vous montre l'évolution démographique de plusieurs pays européens. Et vous voyez que c'est en Hongrie que la population est la plus vieillissante et la plus déclinante. Si l'on voulait donc prendre une vue strictement utilitariste de la migration et nous demander quel est le pays européen dont l'économie a le plus besoin de migrants, c'est l'Hongrie. Quel est le pays européen dont la démographie a le plus besoin de migrants? C'est encore l'Hongrie. Quel est le pays européen qui ne veut absolument pas de migrants? C'est l'Hongrie. Nous marchons sur la tête. Cinquième raison, l'ouverture des frontières permettrait d'enfin mettre un terme à l'immigration illégale. Alors vous allez me dire, c'est un truisme. Forcément, si les frontières sont ouvertes, tout le monde a le droit de les franchir et donc l'immigration illégale, par définition, n'existe plus. C'est vrai. Mais il faut se souvenir que la lutte contre l'immigration illégale, c'est une priorité absolue de tous les gouvernements. Et que nous sommes ici confrontés à une hypocrisie sans nom. Parce que l'immigration illégale, forcément, est une réalité et est aussi une nécessité pour l'économie. Un des plus gros employeurs en France de travailleurs sans papier, c'est l'État lui-même. Qui viendra surveiller le parking de la mairie? Qui viendra nettoyer la salle demain matin avant que les employés municipaux n'arrivent? Ce seront très vraisemblablement des travailleurs sans papier. Qui nettoiera les couloirs des hôpitaux? Qui videra les poubelles de l'Assemblée nationale? Ce seront très vraisemblablement des travailleurs sans papier. Et donc, quelque part, nous créons de facto cette migration légale et la fermeture sans cesse plus marquée des frontières accroît ces situations de précarité. Et certains diront, et c'est un argument que je peux entendre, mais au fond, l'ouverture des frontières, c'est un projet néolibéral, c'est un projet promu par le MEDEF et le grand patronat qui souhaite disposer d'un réservoir de main-d'œuvre bon marché. Soyons très clairs, ce qui arrange surtout aujourd'hui, des patrons peu scrupuleux, ne le mettons certainement pas tous dans le même sac, et les syndicats patronaux, c'est de disposer d'une main-d'œuvre sans papier. C'est-à-dire de disposer d'une main-d'œuvre qui n'est protégée par aucun filet de sécurité sociale, qui n'a droit à aucune protection sociale, et que l'on peut payer en dessous du salaire minimum. Si toutes les migrations devenaient légales, ça veut dire que chaque travailleur serait payé au moins au salaire minimum, que chaque travailleur aurait droit au système de protection sociale prévu par l'État. Là encore, nous sommes totalement hypocrites. Il y a quelques années, le ministre de l'immigration de David Cameron au Royaume-Uni avait mené une grande campagne qui visait à faire peur aux migrants en situation irrégulière au Royaume-Uni. Et donc, un peu partout, il faisait défiler dans tous les villages de Grande-Bretagne ce camion et ses annonces qui disaient « Si vous êtes au Royaume-Uni illégalement, rentrez chez vous ou risquez une arrestation. » Avec un cachet qui disait « La semaine dernière, dans votre coin, la police a procédé à 106 arrestations de migrants sans papier. » Cette campagne avait beaucoup choqué au Royaume-Uni. On faisait défiler ces camions comme les cirques qui arrivent dans les villages et qui proclament que le cirque est en ville pour 2 semaines. La campagne a beaucoup choqué jusqu'à ce que le ministre qui l'avait initié doive démissionner. Après que la presse tabloïde, qui a certains mérites, avait révélé que lui-même était employeur de migrants sans papier. Et que la nounou de ses enfants, c'était une migrante sans papier. Et donc, je crois que une des raisons qui doit nous conduire à ouvrir les frontières, c'est celle qui permettrait un progrès social, qui permettrait que tous les travailleurs sans papier puissent enfin bénéficier d'une protection sociale, puissent enfin être payés au minimum syndical, au minimum légal. Et je vous garantis que ce n'est pas une revendication du patron. C'est une raison très efficace, par les temps qui courent, pour mettre un terme à ce qui est une gabegie absolue d'argent public. La fermeture des frontières coûte très très cher et, comme je l'ai dit, ne sert à rien. Depuis 2000, on estime que la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne a coûté au gouvernement européen 13 milliards d'euros. Et que depuis la même date, les migrants et les réfugiés ont dépensé 15 milliards d'euros aux passeurs pour franchir cette frontière. 13 milliards dans un sens, 15 milliards dans l'autre. C'est en tout 28 milliards d'euros qui ont atterri dans la poche des passeurs et des industries de surveillance et d'armement. On dépense des sommes assez délirantes pour sécuriser et fermer les frontières. Le plus frappant est sans doute l'augmentation exponentielle du budget de Frontex, c'est-à-dire l'agence de l'Union européenne chargée de la surveillance des frontières extérieures. Voilà bien un domaine de l'action publique qui ne fait face à aucune mesure d'austérité, à aucune restriction budgétaire. Et voilà donc, je crois, cet argument, cette raison qui doivent nous conduire à penser que l'ouverture des frontières serait un choix plus rationnel, plus pragmatique, même en dehors de toute considération de principe ou de valeur. Si on regarde les principes d'efficacité de l'action publique, je crois que c'est cette raison qui devrait à elle seule nous conduire, sinon à ouvrir les frontières, du moins à envisager cette option comme une option possible dans l'éventail des choix politiques. Et pourtant, ça ne suffit pas. Nous sommes aujourd'hui à une époque, dite l'époque de la post-vérité, où vous pouvez étaler autant d'arguments rationnels que vous voulez. Vous pouvez présenter autant de faits, autant de chiffres que vous voulez. En matière de débat sur les politiques migratoires, ça ne percute pas. On est aujourd'hui face à un débat qui est devenu complètement irrationnel et idéologique, et qui est devenu imperméable aux faits et aux chiffres. Et c'est une vraie difficulté pour nous en tant que chercheurs. Nous pouvons présenter tous les chiffres, toutes les statistiques, tous les faits que l'on veut. On sait très bien que cela n'aura absolument aucun écho dans le débat public. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut mobiliser aussi des arguments de valeur, des arguments principiels sur la question de l'ouverture des frontières. Ah, nous avons perdu le... Non, c'est juste un écran noir. La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit dans son article 13.2, que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Quelle est l'utilité d'avoir le droit de quitter votre pays si vous ne pouvez aller dans aucun autre? De facto, la fermeture des frontières empêche la mise en œuvre de cette liberté fondamentale. Et nous avons ici un droit humain qui n'a jamais été mis en œuvre du fait de la fermeture des frontières. Et donc, je pense que nous devons considérer l'ouverture des frontières comme un moyen de permettre à chacun d'exercer ce droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je crois donc que l'ouverture des frontières, c'est avant tout un projet de liberté. La personne que vous voyez à l'écran, c'est Phileas Fogg. Phileas Fogg, c'est le héros du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Et depuis Phileas Fogg, on en a fait des tours du monde et des tours du monde. C'est devenu aujourd'hui l'expérience d'une vie, le truc qu'il faut faire absolument. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a fait ou qui va faire un tour du monde et qui ne manquera pas d'ouvrir un blog ou un compte Instagram pour raconter son périple étape après étape. On a même aujourd'hui des formations qui sont proposées à ceux qui reviennent d'un tour du monde pour savoir comment on va pouvoir gérer la dépression post-tour du monde. La réalité, c'est que, à côté de nous, Européens, qui pourront faire des tours du monde comme cela pour le plaisir et pour pouvoir le raconter à sa famille et à son entourage pendant des dizaines d'années, jusqu'à sa retraite, il y a tous ceux qui n'auront même pas le moyen, même pas la possibilité d'aller dans un pays voisin. Et je trouve, au risque d'en choquer certains, qu'il y a quelque chose d'indécent à voir cette sorte de chapelet de tour du monde, à voir ces photos sur Facebook de gens qui font des tours du monde à n'en plus finir, quand tant de gens meurent simplement pour s'extraire de leur pays en guerre ou confronter à la misère ou aux catastrophes naturelles. Il me semble qu'il y a une injustice fondamentale aujourd'hui à ce que le sort des uns et des autres, à ce que le destin des uns et des autres, à ce que les opportunités qui leur seront offertes au cours de leur vie dépendent à ce point du fait qu'ils soient nés sur la rive nord ou la rive sud de la Méditerranée. Et qu'aujourd'hui, en quelque sorte, le privilège de la classe sociale a été remplacé d'une certaine manière par le privilège du lieu de naissance. Selon que vous serez né au nord ou au sud, vous aurez accès à une foultitude d'opportunités, de voyages possibles, ou alors à quasiment rien du tout. Et je crois que l'ouverture des frontières serait un moyen de corriger un peu cette injustice fondamentale. Ça ne la corrigerait pas tout à fait, bien entendu, et je n'ai pas la prétention de dire qu'on arriverait à un monde où les inégalités seraient parfaitement gommées par la seule ouverture des frontières, mais je crois que ce serait un moyen de réduire un peu, un tout petit peu, cette injustice fondamentale, et c'est pour ça, je crois, que l'ouverture des frontières est aussi un projet d'égalité. Vous connaissez la personne qui est à l'image. Il incarne d'une certaine manière la quintessence de la France. C'est un des Français les plus connus à l'étranger avec Catherine Deneuve. Mais il se trouve que, comme vous le savez, il est désormais russe. C'est un citoyen russe. Mais il voudrait désormais devenir citoyen turc. Et donc ce jeune homme turc rapporte depuis Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, où Gérard Depardieu a assisté aux célébrations du 70e anniversaire de la création de la Corée du Nord, que Gérard Depardieu, qui était français, qui est devenu russe, souhaite maintenant devenir turc. Grand bien lui fasse. On est aujourd'hui face à quelqu'un comme Gérard Depardieu, dont on pourra penser ce qu'on voudra, qui, quelque part, choisit les passeports et les nationalités qui l'arrangent, au gré de ses rencontres, au gré de ses affinités, au gré des régimes fiscaux. Et puis, bien entendu, à côté de cela, il y a ceux qui sont coincés dans leur nationalité, qui ne pourront jamais changer de nationalité, qui ne pourront jamais quitter leur pays. Et donc, on a à côté de ces citoyens mondialisés comme Gérard Depardieu, on a quelque part tous les autres, ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Et comme je le disais, de plus en plus, les frontières sont aussi un moyen de définir l'identité collective. Et nous allons définir notre identité collective quelque part contre les autres, en opposition aux autres. Et je suis très frappé du fait que dans un monde qui est sans cesse plus connecté et plus mondialisé, nous sommes sans cesse plus dépendants les uns des autres, il y a de plus en plus de velléité, quelque part, à nous définir uniquement à l'intérieur de notre frontière. Comme si, quelque part, nous étions différents des autres. Et je pense que la vraie question que pose l'ouverture des frontières, c'est aussi la question du cosmopolitisme. C'est-à-dire, comment allons-nous nous définir en tant qu'humains sur cette planète? Est-ce que nous allons nous définir comme citoyens d'un seul pays différent des autres? Ou est-ce que nous allons nous définir comme citoyens d'une même planète? Et c'est là où, quelque part, la question des migrations rejoint beaucoup la question du climat et de la crise écologique. Et la question fondamentale que nous pose notre rapport aux migrations à la frontière, au fond, c'est la question de notre rapport à l'autre. Est-ce que nous allons considérer l'autre comme étant différent de nous, ou est-ce que nous allons le considérer comme une partie de nous-mêmes? Je suis toujours frappé du fait que on parle toujours des migrants, des réfugiés, des étrangers ou des musulmans, au pluriel. Comme s'il s'agissait d'un groupe constitué avec des revendications spécifiques et comme s'ils se rassemblaient entre eux régulièrement. Il me semble qu'il y a quelque chose de problématique à ce que l'on parle toujours de ces personnes au pluriel et jamais au singulier, et quelque part en niant la singularité de chacun de ces individus. Parmi les réfugiés ou les migrants que je connais, chacun verra le qualificatif de réfugié ou de migrant comme une sorte de caractéristique de sa situation administrative, mais certainement pas comme un marqueur de son identité. Moi-même, je suis gaucher. Il y a dans la population en France entre 12 et 15% de gauchers. Statistiquement, à vue de nez, ça devrait être le cas d'une quinzaine, d'une vingtaine d'entre vous. Ne vous cachez pas, je sais que vous êtes là. C'est-à-dire qu'il y a plus de gauchers dans la population française que d'étrangers et que d'immigrés. Mais pourtant, on ne parle jamais des gauchers au premier. Personne n'envisage que les gauchers soient un groupe constitué. Alors que nous, gauchers, représentons un coût considérable pour la sécurité sociale. Nous sommes responsables d'un nombre incalculable d'accidents domestiques et d'accidents de la route. Nous avons d'ailleurs une espérance de vie inférieure à celle des droitiers, une injustice beaucoup trop négligée par le ministère de la Santé. Nous avons même dans les grandes villes des magasins spécialisés qui vendent des accessoires de cuisine et de bricolage spécialement pour gauchers. Et je vous garantis que les droitiers n'ont pas intérêt à mettre les pieds dans ces magasins communautaristes. Mais pourtant, personne ne voit les gauchers dans la société française comme un groupe constitué. Et personne, aucun gaucher, ne verrait le fait d'être gaucher comme un marqueur premier de son identité, même s'il paraît que les gauchers ont un cerveau qui fonctionne un peu différemment de celui des droitiers. Personne ne se présentera en disant « Bonjour, je suis gaucher ». Et donc je suis frappé du fait que pour les migrants, pour les réfugiés, pour les étrangers, nous n'hésitons pas par contre à employer sans cesse ce pluriel comme s'il s'agissait d'un groupe différent de la société, comme si ce groupe n'avait pas vraiment sa place dans la société ou était là de façon temporaire ou éphémère. Et je crois que ce que permettrait l'ouverture des frontières, c'est de reconnaître que cet autre n'est pas différent de nous-mêmes, mais au contraire, une partie de nous-mêmes, si nous définissons comme citoyens du même humanité. Et c'est pour ça, je crois, que l'ouverture des frontières est enfin un projet de fraternité. Merci.